Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément et Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont nous vous remercions. La couleur des robes de chevaux, puisque nous en sommes à, dans notre triptyque, nous en sommes au numéro 2, hein, la valse des robes. Donc la couleur des robes de chevaux a toujours été le cher souci des cavaliers et des éleveurs et a suscité des querelles byzantines pour en apprécier les nuances, parfois très subtiles, et donc les qualifier. La génétique est venue mettre un peu d'ordre et surtout simplifier cette inflation de dénomination. Génétiquement, en effet, on distingue, alors tu me dis si je me trompe, hein, trois familles principales de robes. Dites robe de base. La famille des chevaux à robe noire, celle des chevaux baies, celle des alezans qu'on rejoint récemment, tu viens de me le dire, Virginie, les chevaux à robe rouanne et les chevaux à robe aubert, à laquelle il faut rajouter une quatrième famille qui regroupe les chevaux à robe blanche, à robe grise, à robe crème et à robe chocolat. Donc là, vraiment, on a toutes les couleurs. En sont exclus les chevaux albinos, un accident génétique qui prive ces animaux de la pigmentation de leur poil, de leur peau et de leurs yeux. Voilà. Alors venons-en aux chevaux alezans, thème de l'émission d'aujourd'hui. Le mot, à la fois adjectif et nom commun, apparaît dans la première moitié du XVIe siècle sous la plume de François Rabelais. Alors je dis à mes auditeurs que j'ai atrocement pompé Virginie Bauer. Il serait issu de l'arabe du Maghreb pour décrire la couleur blond ardent, rousse, mais également pour nommer le renard, qui est brunâtre, effectivement. Et selon les linguistes, la langue française aurait récupéré ce mot par l'intermédiaire des Espagnols et des Italiens. La robe alezane fait partie des robes simples qui se caractérisent par des poils fauves, des crins fauves, avec des nuances allant du roux clair ou au roux foncé et qui s'expliquent par le fait que ces chevaux ne possèdent pas dans leur code génétique de mélanine, un pigment biologique qui donne au tégument une couleur qui va de foncé à noir. Je dis toujours pas de bêtises ?
Mais non.
En revanche, il dispose de phéomélanine, un autre pigment lui aussi biologique de couleur jaune à rouge qui est responsable de la coloration rousse de leur crin et de leur pelage. C'est ce qui explique qu'un étalon et une jument alezan auront obligatoirement des poulains alezans. Sauf si très très lointainement il y a eu un espèce de petit croisement, parce qu'il peut arriver aussi des fois les éleveurs attendent un beau poulain alezan et puis gloups, il a, je sais pas moi, le nez tout noir. Alors les crins d'un alezan peuvent être plus clairs que sa robe, tout comme le bas de ses membres, le bout de son nez et ses oreilles. Cette couleur peut s'éclaircir ou s'assombrir au cours du temps et même selon les saisons, mais sans jamais devenir noir. Ça c'est vraiment, Virginie, la chose importante, jamais jamais noir. Et si la peau de l'animal est assez clair, elle n'est jamais rose. Et pour terminer cette rapide description, notons que le cheval alezan a les yeux foncés. À partir de cette définition générale, plusieurs nuances de robe sont répertoriées, dont les plus fréquentes sont l'alezan que l'on pourrait appeler l'alezan standard passe-partout, tel que nous venons de le décrire, l'alezan dit brûlé, caractérisé par une peau noire, des yeux foncés, des poils et des crins qui ont la couleur du café torréfié. Donc c'est un brun très sombre, c'est pas un noir encore. L'alezan café au lait, à la peau claire et aux yeux foncés. L'alezan crin lavé, quand la queue et la crinière sont pratiquement blanches. Le palomino, qui a la peau noire ou grise, une robe fauve clair avec pour certains sujets des nuances dorées et on parle alors d'alezan cuivré. Des crins entre blanc et argenté plus clairs que les poils, des poils dont quelques-uns, toutes règles ayant son exception, peuvent parfois être noirs. On dit alors que la robe charbonne, selon l'expression consacrée. Enfin, l'alezan tobiano, alors ce grand poney possède un gène dominant qui, associé à n'importe quelle nuance de fauve, donne obligatoirement à ses poulains une robe pie. Ce sont des chevaux pie. On explique à nos auditeurs qu'un cheval pie, c'est un cheval qui a deux couleurs. Voilà. Deux couleurs en plaques, comme on dit, pas mélangées. De plus, quelle que soit la couleur de la robe de la mère, cette caractéristique est systématiquement transmise à sa descendance. C'est-à-dire que un alezan tobiano fera des alezans tobiano. Je sais pas si on dit tobiani, hein, au pluriel. Alors, on va commencer quand même, puisqu'on parle un peu de génétique, définir deux mots. Le phénotype. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénotype? Le phénotype, donc, regroupe l'ensemble des caractères observables d'un organisme lié à la fois des facteurs héréditaires et son adaptation au milieu milieu dans lequel il vit. C'est le cas, par exemple, de l'ours grizzly. On quitte un peu les chevaux, qui est brun dans les forêts canadiennes et blanc sur la banquise. Or, c'est toujours un grizzly. Voilà, un grizzly blanc-rhin ou un grizzly blanc. Le génotype, lui, recense l'ensemble des caractéristiques génétiques et nous allons le voir unique d'un seul individu. Alors le gène, encore appelé l'allèle, c'est un mot masculin, on dit un allèle, est une unité d'hérédité qui contrôle un caractère particulier d'un organisme. Il résulte de la division d'une cellule mère sans en être toutefois l'exacte copie. Et tout en assurant les mêmes fonctions que le gène initial, l'allèle acquiert des caractéristiques qui lui sont propres par le biais de mutations qui deviennent héréditaire. Chaque gène est situé à un endroit bien précis du chromosome, qu'on appelle le locus, donc dans le langage de la génétique. Alors, bien qu'étant une structure non vivante, l'allèle n'est pas vivant, le gène est un support d'information et la base du vivant. On le trouve dans tous les organismes vivants, donc les animaux, mais également les végétaux, les bactéries, et même dans certains virus, on en a trouvé. Donc, c'est bien répandu. Il est composé de deux acides, alors on le sait, l'ADN d'une part. Donc c'est l'acide désoxyribonucléique qui est le support de l'hérédité et qui renferme l'ensemble des informations nécessaires au fonctionnement d'un organisme. L'ARN d'autre part, ou acide ribonucléique, que les cellules utilisent pour synthétiser les protéines et intervenir dans les réactions physiques du métabolisme. Alors le métabolisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des transformations chimiques et physico-chimiques accomplies dans les tissus d'un organisme vivant. Donc on sait quand même une sacrée usine tout ça. La totalité du matériel génétique d'un être vivant est codé dans son ADN, c'est ce qu'on appelle le génome, gène-génome. Et son rôle consiste à porter donc les gènes qui détiennent l'information transmise des cellules mères aux cellules filles lors des divisions cellulaires. On sait que les cellules mères passent leur temps à se scinder en deux et donc à donner deux filles. À noter qu'au sein d'une même espèce, le génome de chaque individu est unique, ce que les généticiens appellent le polymorphisme génétique. Tous les êtres vivants reçoivent deux copies de chacun de leurs gènes, l'un venant du père et l'autre de la mère. Donc c'est ce qu'on appelle la reproduction sexuée. Et les généticiens classent les gènes en deux catégories, les gènes dominants et les gènes dits récessifs. Une seule copie d'un gène dominant impose toujours sa prééminence sur le gène récessif. S'il veut s'exprimer, ce dernier, donc le gène récessif, doit fournir deux copies, donc de son même gène, pour s'imposer au premier. Voilà, s'il veut avoir une chance de passer. Et pour en revenir aux chevaux, ce sont ces gènes qui déterminent entre autres la couleur de leur robe. Par exemple, imaginons une jument qui veut avoir un poulain qui lui ressemble. Trois solutions s'offrent à elle. Soit elle dispose d'un gène dominant qui pourra s'imposer dans le cas où les talons ont un gène récessif. Donc là, elle gagne. Dans le cas inverse, si ces gènes sont récessifs, notre jument devra transmettre non pas un, mais deux gènes récessifs pour imposer sa couleur à son poulain. Et enfin, c'est la troisième solution, celle évidemment de trouver un étalon dont le code génétique est similaire au sien. Une solution que les éleveurs évitent, car effectivement, elle risque d'induire une trop grande consanguinité. Donc les éleveurs n'aiment pas tellement ça. Est-ce que tu as des commentaires à faire ?
Alors au niveau des gènes, l'alzan est quand même caractérisé par l'absence du gène extension, qui est un gène noté E et qui lui donne des poils noirs, pigments noirs. Par contre, on trouve le gène souti chez l'alzan brûlé, qui est responsable de l'effet fumé de la robe dont tu parlais.
La robe charbonnée.
Voilà, la robe charbonnée. C'est un gène qui est peu connu, son fonctionnement n'est pas encore compris, mais il existe. Plus connu, c'est le gène Flaxen, qui lui est responsable de l'aspect des crins lavés. Donc un cheval au crin lavé est forcément FF, dont tu parlais des allèles, et deux chevaux Flaxen engendreront forcément un produit Flaxen.
D'où ça vient ces termes ? Ce sont des termes anglais ou ce...
Souti, oui, puisque soot, c'est la suie en anglais.
D'accord.
Flaxen, je dois te dire que je ne sais pas.
Voilà.
Donc voilà ce que je peux vous dire sur les gènes qui caractérisent l'alzan.
Et est-ce qu'on retrouve un petit peu cette même nomenclature, j'imagine, sur d'autres races de chevaux, en fait hein.
Oui, mais avec des gènes propres.
Avec des gènes propres, bien voilà. Évidemment, ouais, tout à fait. Par exemple, oui, le cheval noir, noir-noir, effectivement, a des gènes différents. Mais accordons-nous maintenant une pause musicale avec Cesaria Evora, le titre « Cumpade Sizzone ».
Thank you. Mas todo dia te está a acontecer, as coisas estranhas na nossa terra. Tal mudança te está a acontecer, que até monte cara já gaguejar. Ilha do espaço já tremei que me, letra mister com pá decisão. Faz todo dia te está a acontecer, as coisas estranhas na nossa terra. Tal mudança te está a acontecer, que até monte cara já gaguejar. Ilha do espaço já tremei que me, credo na mister com pá decisão. E é de nós nima, nós amgê, já te arriscou de nós calendar. Trabalhadores que a mexes, é medo um terramor. Democracia que te comprou, não se cobira nem pluri. Sentimento povo que te brincou, que não mexe com nós tradição. História de nós terras, crê cambar no esquecimento. 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 Outro dia a ti está a acontecer, as coisas estranhas na nós terras. Tal mudança a ti está a acontecer, que até muito cara já gaguejar. Ilha do espaço da treme que me, crer na mistério com pá decisão. Quase todo dia a ti está a acontecer, as coisas estranhas na nós terras. Tal mudança a ti está a acontecer, que até muito cara já gaguejar. Ilha do espaço da treme que me, crer na mistério com pá decisão. E é de nós mínima, nós já mexer, já te arriscou de nós calendar. Trabalhadores que a mexes, é medo um terramonte. Democracia que a te comprou, não se copira nem flori. Sentimento povo que a te brincou, que não mexe com nós tradição. História de nós terras, crê cambar no esquecimento. 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 História de nós terras, crê cambar no esquecimento.
Alors Michel, là, tu nous as parlé des couleurs des chevaux telles qu'on les connaît dans nos pays occidentaux et à notre époque, mais il faut savoir qu'on trouve d'autres caractéristiques et dénominations des alezans. Elles ont été répertoriées au XIVe siècle par un vétérinaire qui a fait un traité d'hypiatrie et d'hypologie, et dans ce qu'ils appellent le Nasseri, puisqu'il est fait pour le sultan d'Égypte, il répertorie les couleurs, et notamment l'alezan. Et l'alezan apparaît comme la deuxième couleur la plus importante. Il précise que l'alezan est le meilleur des chevaux, et que selon les dictons, quand on a vu voler un alezan, il faut le croire, parce que c'est le cheval le plus rapide, comme nous le verrons avec quelques exemples.
Ah, la poésie orientale, c'est voilà. Merveilleux.
Alors, dans le Nasseri, la couleur alezane se décline en 7 nuances, qui ne sont pas du tout les nôtres. Il y a l'alezan commun, dont on a parlé, mais par contre, il y a l'alezan safrané, l'alezan bébrun, l'alezan sanguin, l'alezan terreux, l'alezan pénétré et l'alezan roux. Alors, c'est des noms un petit peu curieux. Moi, ça m'a beaucoup... l'alezan sanguin m'a fait... Je me suis demandé ce que c'était, mais en fait, il le caractérise comme une couleur vineuse.
Une couleur vineuse,
voilà.
Oui.
Voilà une idée un petit peu de la dénomination. Et l'alezan terreux par rapport à la couleur de la terre. C'est toujours intéressant de voir comment ces dénominations sont propres aussi aux cultures. Alors maintenant, je vais vous parler de trois races en particulier qui sont alezanes et sont caractérisées par la couleur alezane. Alors la première, certainement la plus célèbre, c'est le Haflinger. Donc le Haflinger est un petit cheval de montagne robuste, originaire du Tyrol, qui est aujourd'hui en Autriche et en Italie. Et c'est un alezan crin lavé. Alors, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur...
Alors, tu peux juste préciser ce que veut dire crin lavé.
Alors, le crin lavé, c'est blond, presque blanc, en fonction des races de chevaux. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonnée quand me suis renseignée sur Léa Flinger, c'est que figure-toi, le père de l'étalon qui a établi de l'étalon fondateur qui s'appelait Folie 249, son père était un pur sang arabe alsan. Ce qui est très étonnant parce qu'on a du mal à faire la connexion entre ce petit cheval du Tyrol et le pur sang arabe.
Ah oui, c'est ils sont tellement différents les deux, mais bon. Et donc, la génétique, c'est le juge de paix. De
exactement.
Toute façon.
Et donc son père s'appelait Albedavi 22, pardon. Il était alsan doré. Dans ses gènes, il gardait sûrement des traces des diverses robes de ses ascendants. Et la mère de Folie, donc toujours notre étalon fondateur, était elle-même alsane et fruit de divers croisements. Et ça l'a donc donné ce petit cheval qui est aujourd'hui uniquement alsan, mais on peut imaginer que ses ancêtres ont eu de diverses robes de couleurs différentes. Deuxième race qui se caractérise par l'alsan, à nouveau un cheval alsan crin lavé, c'est le cheval de la forêt noire. C'est un cheval que l'on utilise beaucoup pour faire des randonnées, pour tirer des attelages. Un cheval assez impressionnant, avec de très grands crins, très 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 longs.
Et il faisait le débardage aussi.
Et qui faisait le débardage, exactement. Plutôt un cheval de travail, on dira. J'ai également trouvé un cheval originaire de Hongrie, qui s'appelle le cheval Gidran, qui est un cheval en voie d'extinction. Malheureusement, quand on se rend compte que beaucoup de ces races ne comportent plus que quelques centaines d'individus, qui est également le cas du Jutland, qui est un cheval de trait danois, qui avait été sélectionné au XIIe siècle en tant que cheval de guerre. Donc le cheval alsan est souvent un cheval de travail.
Un cheval de travail, oui. Tu pourrais le décrire, ce dernier cheval hein?
Le Jutland, c'est un grand cheval de trait qui se rapproche un petit peu de l'autre race dont j'allais te parler et vous parler, qui est le Suffolk Punch, qui lui est un cheval anglais, très impressionnant, car il fait partie des races dites de trait lourdes. C'est une des races les plus anciennes qui existent en Angleterre, qui était également sélectionné pour sa force dans l'armée.
Et
qui
est c'était plutôt un cheval militaire, alors.
Au départ, oui, parce que faut bien se souvenir que il portait des cavaliers en armure.
Oui, c'était lourd, hein.
Et
oui,
c'était
oui.
Lourd.
On estime entre 130 et 150 kilos le poids d'un cavalier avec son armement, sa cuirasse, tout son fourniment dans les fontes et dans les sacoches arrière. Enfin, oui, ça pèse lourd. Hein.
Voilà. Il faut bien penser que les chevaux, souvent au Moyen-Âge, étaient des chevaux qu'on dirait de trait aujourd'hui.
De trait, absolument. Hein. Et qui chargeaient en trottant du reste. Rarement au galop.
Voilà. Alors, le Suffolk Punch, lui, a connu une carrière en tant que cheval de guerre. Aujourd'hui, c'est un cheval dont la race est également dans un état critique, car il ne reste plus que quelques centaines d'individus. Et donc, des sociétés se sont formées pour défendre ce cheval, et notamment qui est beaucoup utilisé maintenant en attelage en Angleterre. Donc un très beau cheval, grand, puissant, qui a l'air très sympathique quand on le voit sur les photos. Maintenant, je vais vous parler d'alsan célèbre. Comme vous le disait le Nasseri, regardez voler un alsan et croyez-le. Donc cela ne t'étonnera pas, Michel, que parmi les alsans célèbres, il y ait des chevaux de course.
J'imagine. Et
parmi ces chevaux de course, le plus ancien dans l'histoire, c'est Eclipse. Il est né en 1764 et c'est le plus grand pur sang anglais de l'histoire des courses, car il a tout gagné et il est aujourd'hui à l'origine de la plupart des grands pur sang anglais.
Des grandes lignées.
Des grandes lignées de pur sang anglais. Derrière Eclipse, au niveau du galop, on parlera de Secretaria, qui a été un grand cheval américain, qui a gagné la triple couronne là-bas. Autre cheval.
Toujours en course, donc.
Toujours en course. Là, je ne te parle que des chevaux de course. Autre cheval très célèbre, plus proche de nous, c'est Peintre Célèbre, qui a gagné le prix de l'Arc de Triomphe, qui est notre plus grande course en France.
Ah oui, absolument.
Et Peintre Célèbre, qui a été un grand reproducteur. Et puis, probablement le plus célèbre de tous les chevaux de course. Mais là, c'est un trotteur. Et il s'agit d'Ourasi.
D'Ourasi, le fameux,
l'extraordinaire Ourasi. Qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, un âge qu'on pourra qualifier de canonique après avoir goûté une belle retraite. Et Ourasi, c'est le quadruple vainqueur du prix d'Amérique. Et enfin, pour terminer cette série sur le cheval alsan, je vais vous parler d'un cheval qui, lui, a existé il y a très très longtemps, C'est Whistle Jacket, peint par George Stubbs en 1762.
Whistle de sifflet.
Oui, Whistle Jacket. Et ces tableaux qu'on peut voir aujourd'hui à la National Gallery, certainement le tableau le plus iconique de tous les chevaux. Et ce qui est assez difficile, rigolo plutôt, c'est que Whistle Jacket avait un caractère très difficile, très tempétueux. Et quand le cheval a vu son portrait posé contre un mur après une séance de pose, il l'a attaqué. Et il a fallu toute la force de son palefrenier et des coups de palette de George Stubbs pour éloigner ce cheval de son portrait. C'est un grand tableau, hein. Il fait 2,92 m sur 2,64 m.
Ce qui tendrait à prouver que la vérité fait toujours peur.
Voilà.
Nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval, les messagers du cheval, je devrais dire, vous donnent rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. Merci à toi Virginie. On sort de l'émission toujours moins bête qu'on y est rentré, ça c'est vrai, depuis que tu es là. Et merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à nos chevaux.